Christian Théin conteste toujours les charges qui lui sont reprochées. Le leader de la CCAT s'est exprimé pour la première fois depuis sa remise en liberté en métropole. 500 kilos de cocaïne saisis par les douanes de la région, c'est le résultat d'une opération conjointe menée par les douanes françaises, australiennes, américaines et néo-zélandaises. Séance essentiellement budgétaire à la province sud, les élus examinent notamment la décision modificative numéro 2 du budget de la collectivité. En métropole, nouveau développement dans l'affaire Grégory, dont le meurtre il y a 40 ans n'est toujours pas élucidé. La grand-tante du petit garçon est convoquée par la justice. Sixième jour de guerre entre Israël et l'Iran, le guide suprême iranien a pris la parole. L'Iran ne capitulera pas, a annoncé l'ayatollah Khamenei. Les Néo-Zélandais de V5 vont franchir en premier la ligne d'arrivée de la Groupama Race hier soir. Ce matin, les Calédoniens de Jelty Pleasure ont bouclé la course en deuxième en battant le record de temps dans leur catégorie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal et à l'occasion de la Groupama Race dont on reparlera évidemment dans la page sport. Notez que nous nous intéresserons ce midi dans les jeudis de l'économie juste à la fin de ce journal à l'économie du nautisme et de la plaisance. A-t-il lui aussi subi le contre-coup des émeutes? Nous en parlerons notamment avec Sébastien Fellman, le directeur de la Sodemo, Frédéric Mignard du CNC et Christophe Besson, le directeur de Marine Corail. Des jeudis de l'économie à retrouver donc dès la fin de ce journal. Il n'était au courant de rien. C'est la ligne de défense choisie par Christian Théin. Le leader de la CCAT s'exprimait pour la première fois depuis sa remise en liberté après un an de détention provisoire. Une conférence de presse organisée cette nuit pour nous à Montpellier dans le cabinet de l'un de ses avocats, Florian Médico, et en présence Elisabeth Noir d'un autre de ses défenseurs, Maître François Roux.
Des avocats qui, comme de juste, clament l'innocence de leur client et qui lui ont conseillé de ne reconnaître aucune responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. Rappelons que Christian Théin est toujours poursuivi dans le cadre de l'enquête sur les violences insurrectuelles de mai 2024 et qu'il est mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Il est aussi placé sous statut de témoin assisté pour complicité de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour provocation directe au groupement armé suivi des faits. Mais le leader de la CCAT dément toute implication dans les émeutes. Il rappelle qu'il a toujours contesté l'ensemble des charges qui lui sont reprochées et il réaffirme qu'il a toujours eu une démarche pacifique. Quand on l'interroge sur les conséquences des violences insurrectionnelles, il déclare que c'est un beau gâchis et il dit être terriblement triste pour son pays en affirmant qu'il était, comme tout le monde, déconcerté quand il s'est réveillé avec l'insurrection dans les quartiers de Nouméa. Il n'a jamais été question de sacrifier des vies, affirme encore Christian Théin, qui met en cause les charges des forces de l'ordre contre les jeunes. Le leader de la CCAT, qui a été nommé président du FLNKS pendant sa détention, a aussi été interrogé sur son éventuelle participation aux discussions sur l'avenir institutionnel début juillet à l'Élysée. Il indique seulement qu'une convention du FLNKS est prévue le 28 juin pour décider dans quel cadre les discussions doivent se poursuivre. « Si je suis là, tant mieux », dit-il, mais il ajoute que jamais il ne s'est considéré être irremplaçable. Christian Théin qui se permet même de déclarer qu'il faudra qu'on trouve les voies pour sortir par le haut. Parce que, dit-il, on ne peut pas répéter tous les 30 ans la même chose. Et il se dit désireux, avec le gouvernement français, de se projeter et de fixer une voie vers la pleine souveraineté. Il se pose aussi en donneur de leçons, en mettant en cause l'entêtement de certains membres du gouvernement à amener ce dossier dans le mur. Et il ajoute que la parole que la France donne a de la valeur, mais qu'il a l'impression que ces derniers temps, on a galvaudé la parole de la France. Reste à savoir si ces arguments convaincront la justice quand ils comparaîtront pour les faits pour lesquels il est poursuivi.
L'actualité judiciaire, c'est aussi cette saisie de 500 kilos de cocaïne dans la région. C'est ce qu'annoncent les douanes françaises après une opération conjointe menée avec les douanes australiennes, américaines et néo-zélandaises. Les douaniers de Polynésie française et de Calédonie ont saisi 209 kilos de cette drogue entre les mois de mars et mai, Charlotte Coulson.
La poudre blanche était conditionnée dans des conteneurs transportant notamment des panneaux d'isolation à destination de l'Australie. Il s'agit de la technique dite de rip-off. Elle consiste à utiliser des conteneurs destinés au transport de marchandises légales pour y cacher de la drogue à divers endroits du conteneur après qu'ils aient été dédouanés au départ et dans le but de récupérer les stupéfiants avant les contrôles à l'arrivée. Une technique que les douaniers connaissent bien. Leur travail d'analyse des flux et de ciblage ont permis d'intercepter la drogue entre la Calédonie, la Polynésie et Melbourne. C'est l'aboutissement d'un long travail de coopération entre les services du Pacifique selon la directrice régionale des douanes par intérim, Marie Molès Delgado.
142 kilos qui ont été découverts en Polynésie, 67 kilos qui ont été découverts en Nouvelle-Calédonie et 285 kilos qui ont été découverts dans trois saisies distinctes à l'arrivée à Melbourne. L'ensemble des contrôles ont lieu dans ce qu'on appelle le transbordement, C'est-à-dire que ce sont des conteneurs qui ne sont pas destinés à la Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, c'est de rassurer aussi, mais bien destinés à l'Australie, qui est plutôt le marché de consommation finale de cette coquille. C'est une très belle opération. On est très content de la coopération avec les autres services douaniers. Et puis c'était une première en fait, hein, puisque c'est la première opération régionale de cette envergure entre les différentes douanes, les différents partenaires de la zone. Donc on est très satisfaits et c'est le point d'aboutissement aussi d'une stratégie en matière de coopération qu'on mène depuis plusieurs années maintenant. Et là, on voit les résultats de ces années d'investissement.
L'opération a également bénéficié du soutien de la direction territoriale de la police nationale à l'occasion des contrôles réalisés, avec notamment l'intervention de la police judiciaire et plus particulièrement le service de police scientifique.
La vente d'alcool interdite sur l'ensemble du territoire cette fin de semaine. Le Haut Commissariat a pris un arrêté indiquant que compte tenu du contexte politique actuel et des troubles à l'ordre public des dernières semaines, ainsi qu'à l'approche de la fête de la musique qui sera célébrée dans de nombreuses communes du territoire ce samedi, la vente d'alcool sera donc interdite à partir de demain et jusqu'à dimanche inclus. La vente d'alcool pour une consommation immédiate au sein des bars et restaurants et boîtes de nuit est quant à elle autorisée. Un ordre du jour essentiellement budgétaire. Les élus de la province sud, réunis en séance publique ce matin, ont adopté les comptes administratifs de la collectivité. Seul le groupe FLNKS s'est abstenu. Ils ont ensuite examiné la décision modificative numéro 2 du budget 2025. Nicolas Legrand.
Oui, un budget revu à la hausse. Les recettes de la province sud augmentent en effet de 3 milliards 150 millions, soit une hausse de 6% due principalement aux ajustements des dotations de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi à la participation de l'État dans le cadre des appels à projets pour la reconstruction ou encore de dotations spécifiques pour certains investissements. Ce budget supplémentaire, entre guillemets, met l'accent sur l'investissement avec 78% de l'enveloppe de ce BS 2025 consacré au soutien à l'économie par la commande publique. Plus d'un milliard de francs sur le réseau routier et 600 millions pour l'habitat social. Côté fonctionnement, la province a réajusté ses mouvements financiers pour dégager près d'un milliard de francs. Résultat, 1,4 milliard consacrés aux subventions et interventions comme la santé et le social. Pour 600 millions, l'enseignement à 346 millions. Pour Sonia Baquès, la présidente de la province sud, il existe donc aujourd'hui un risque que la deuxième partie du prêt de l'État soit une baisse, ne puisse pas être touchée par la province sud, qui représenterait une baisse des recettes de l'ordre de 3,8 milliards de francs. Il faut donc être extrêmement prudent dans les décisions modificatives, a-t-elle dit. Calédonie Ensemble a déposé un amendement qui a été rejeté et qui visait à ventiler différemment ce budget, notamment concernant les aides sociales. C'est pourquoi le groupe ensuite a voté contre ces coupes budgétaires opérées donc par la province sud et a donc voté contre cette décision modificative numéro 2. Le groupe FLNKS Sud et l'Éveil Océanien se sont abstenus. Résultat, cette DM2 a été adoptée. L'autre texte à l'ordre du jour concerne une réforme concernant les règles d'inscription dans les écoles de la province sud. Aujourd'hui, seuls 60% des demandes d'inscription arrivent dans la période officielle, ce qui pose des problèmes à la fois d'organisation des services de la province, mais aussi en termes de cartes scolaires. Cette délibération vise à encadrer les périodes d'inscription et à optimiser la répartition des élèves en fonction des capacités d'accueil et de cette fameuse carte scolaire. La délibération renforce également les exigences en matière de justificatif de domicile. Les attestations d'hébergement ne seront plus acceptées seules comme justificatif de domicile. Calédonie Ensemble et le groupe FLNKS ainsi que l'Éveil Océanien se sont abstenus. Et enfin, les élus ont adopté les dénominations des collèges de Magenta et de Porte de Fer. Le collège de Magenta devient le collège Jean Lec. Celui de Porte de Fer porte désormais le nom de François Oliveau. À l'origine, son nom devait être donné au collège de Rivière-Salée où il fut principal adjoint, mais l'établissement a fermé après les violences de mai 2024. Et enfin, en fin de séance, après le dépôt d'un vœu de Génération NC, un comité de suivi du projet de la route de contournement de Saint-Louis a été mis en place par la province sud. À la province sud, Nicolas Legrand, RRB.
Infomag, 11h39.
Promouvoir le savoir-faire calédonien auprès des Japonais, c'est l'objectif d'une visite d'une semaine qui s'achève aujourd'hui. Trois importateurs venus du Japon ont rencontré les producteurs locaux dans l'espoir de créer des échanges commerciaux, Léana.
Oui, une visite tournée essentiellement vers le miel et sa production. Plumburai, Wegwa ou encore La Foi, les importateurs étrangers ont visité de nombreux domaines apicoles durant cette semaine écoulée pour peut-être repartir et commercialiser du miel calédonien. Il s'agissait de leur premier séjour sur le territoire, des moments pleins de découvertes pour Misao Tachibana.
Je trouve que les miels de la Nouvelle-Calédonie sont purs, alors que la plupart des miels au Japon, il y a des médicaments, des antibiotiques qui ont été utilisés. La plupart des miels au Japon utilisent les pesticides. Les miels calédoniens sont très intéressants et je pense qu'il y a un marché au Japon pour les vrais miels.
Cette initiative trouve son origine au salon Foodex Tokyo 2025. Taishi Stani Furukawa a participé à cet événement majeur en Asie en mars dernier. Lors de cette manifestation, un contrat d'exportation pour du miel calédonien et du sirop de vanille a été acté avec un distributeur japonais. C'est ainsi que l'idée d'inviter d'autres exportateurs et importateurs a germé dans la tête de l'exportateur.
Ils ont été convaincus avec ce que je leur ai raconté quand j'étais au Japon pendant le salon de Foodex. Mais je voulais qu'ils sentent vraiment la vraie chose de tout ce que j'ai raconté. Donc ils sont venus en Calédonie, ils ont vu tout ça, ils ont été convaincus, même beaucoup plus que tout ce que je leur avais dit. Ça va être très intéressant dans le futur, ils vont pouvoir communiquer plus en direct aux Japonais. Les Japonais ne connaissent pas les produits calédoniens. Il n'y a rien de calédonien au Japon à part le nickel. Il y a les crevettes, mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ils ne savent pas que ces crevettes sont de Nouvelle-Calédonie. Maintenant, avec tout ça, ils vont repartir au Japon. Ils vont essayer de créer des contenus pour que ça devienne plus connu au Japon.
Et cette visite ne se limitait pas à la découverte du miel calédonien, mais aussi aux autres produits tels que les fruits ou encore l'alcool.
On va marquer une première pause dans ce journal. Il est 11h42 et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez du kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1090 francs seulement. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans vos 4 magasins à Pogoti, Magenta, Faubourg et Vata. Maison Thirier, goûtez, ça change du surgelé.
Nouveau stock de deck cohue chez Allwoods, de 1m80 à 5m70. Et jusqu'au 30 juin, profitez des Happy Weekends. Moins 15% pour les particuliers, du vendredi 13h au samedi 11h30. Allwoods, 22 rue Descartes à Ducos, ou sur Facebook.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole, et c'est une affaire qui défraie la chronique depuis 40 ans, qui n'est toujours pas résolue et qui va peut-être connaître un énième rebondissement. On reparle en effet de l'affaire Grégory, ce petit garçon dont le meurtre il y a 40 ans dans les Vosges reste un mystère. La justice vient d'ordonner un nouvel interrogatoire en vue d'une mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Et c'est Jacqueline Jacob qui est convoquée. Explication de William Molinier pour Europe 1.
Jacqueline Jacob, c'est la grande-tante de Grégory dans cette affaire. Elle a été désignée par une expertise en graphologie comme l'auteur d'une lettre anonyme adressée en 1983 aux parents Villemain, les parents de Grégory. Jacqueline Jacob et son mari Marcel sont soupçonnés d'avoir écrit plusieurs lettres d'insultes, de menaces et même de revendications du crime envoyé à la famille, les fameux corbeaux dont on sait désormais qu'ils sont plusieurs dans cette affaire. Tous deux avaient déjà été mis en examen en 2017 pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Finalement, leur mise en examen avait été annulée pour des vices de procédure et c'est donc sous une autre qualification que la mise en examen de Jacqueline Jacob est désormais envisagée, cette fois-ci pour association de malfaiteurs criminels. La suspecte a déjà eu l'occasion de s'exprimer autour de ses lettres. « Je n'ai jamais écrit de courrier », avait-elle contesté récemment. Les parents du petit Grégory ont fait savoir par leur avocat qu'ils espéraient que les langues se délient pour connaître enfin la vérité dans ce mystérieux infanticide vieux de 40 ans.
Sixième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Le régime de Téhéran continue d'envoyer des missiles sur Israël alors que Tsahal a procédé à de nouvelles frappes en Iran, notamment dans l'ouest du pays, mais aussi sur la capitale, Téhéran, où le quartier général de la sécurité intérieure iranienne a été détruit. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, est apparu pour la première fois à la télévision dans un message enregistré. Alors qu'il pourrait être visé directement par les Américains ou les Israéliens, il indique que l'Iran refuse de capituler.
Le peuple iranien résiste fermement face à ces menaces, comme il l'a toujours fait.
Notre nation ne se rendra jamais, a ajouté Ali Khamenei. Les opérations militaires iraniennes, à savoir les tirs de missiles sur Israël, se poursuivent donc. La question est de savoir jusqu'à quand. Écoutez à ce sujet Frédéric Ancel, géopolitologue.
Les Iraniens peuvent propulser chaque jour en quantité un peu plus de missiles sur Israël, sans doute pour tenter de casser un peu plus d'immeubles, ce qui est possible, la preuve. Mais ils n'ont en aucun cas la capacité de tenir longtemps, d'une part, et de frapper de manière décisive et victorieuse, d'autre part. L'Iran, militairement, ne peut pas gagner cette guerre contre Israël, et encore moins si les Américains s'y mettent.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Je vous rappelle que Frédéric Ancel était notre invité en direct de Paris mardi matin pour parler de cette guerre. L'Iran ne peut militairement pas gagner cette guerre contre Israël, encore moins si les Américains s'y mettent, disait-il il y a un instant. Apparemment, Donald Trump n'a toujours pas tranché.
Je pourrais le faire, ne pas le faire. Personne ne sait ce que je vais faire. L'Iran rencontre de nombreuses difficultés et souhaite négocier. Et j'ai dit, pourquoi n'avez-vous pas négocié avec moi auparavant ?
L'hésitation de Donald Trump trouve aussi sa source dans la politique américaine, alors qu'il a fait campagne sous le slogan « America first » et une volonté plusieurs fois affirmée de ne pas engager les USA dans le théâtre de conflits extérieurs. Une implication militaire américaine contre l'Iran pourrait lui être reprochée, y compris par une partie des Républicains. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron réunissait à Paris, toujours autour de cette guerre entre l'Iran et Israël, un conseil de défense. Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Emmanuel Macron veut montrer sa fermeté vis-à-vis d'Israël et dénonce des frappes sans lien avec le programme nucléaire iranien, mais qui cause de nombreuses victimes civiles. Selon l'Élysée, le risque d'escalade militaire reste très inquiétant. Il faut donc mettre fin d'urgence à ces frappes. Pour cela, Emmanuel Macron souhaite entamer un dialogue sans concession avec l'Iran, à qui il demande de stopper ses activités de déstabilisation régionale. Le chef de l'État charge également son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de lancer une initiative avec nos alliés européens dans les prochains jours afin de proposer un cessez-le-feu et un processus de paix entre les deux pays. Enfin, à l'issue de ce conseil de défense, aucune mention à Donald Trump ou à la position américaine n'a été communiquée. L'Élysée veut montrer que la voix de l'Europe peut encore avoir de l'importance dans ce conflit, même sans le soutien de l'oncle Sam.
Et puis notez, selon ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, que 87% des Français estiment qu'il faut empêcher l'Iran de détenir l'arme nucléaire. L'actualité en métropole, c'est aussi la fin confuse du conclave sur les retraites. Il devait se refermer la nuit dernière pour nous, mais aucun terrain d'entente n'a été trouvé entre les partenaires sociaux. Une ultime réunion est prévue lundi, celle de la dernière chance, réunion à laquelle participera la secrétaire générale de la CFDT qui espère toujours un accord sur les carrières des femmes ou sur la pénibilité dans certains métiers. Le patronat n'a pas encore confirmé sa présence ou non à cette ultime réunion. Airbus continue d'engranger les commandes au sein du salon aéronautique du Bourget. Au total, 250 appareils retenus par plusieurs compagnies aériennes, auxquels il faut ajouter 18 A350 des gros porteurs commandés la nuit dernière. Le salon du Bourget est aussi celui des innovations. On peut notamment y découvrir le moteur d'avion du futur, RISE, fabriqué par l'équipementier français Safran, Brieux-Bocher pour Europe 1.
Sur le pavillon de Safran, la vedette, c'est lui, le moteur RISE. Pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre qu'il n'a rien à voir avec les moteurs qui équipent les avions aujourd'hui. Delphine Dijot est en charge du projet chez Safran.
C'est un moteur qui n'a plus grand-chose à voir avec un moteur actuel, qui a une forme différente.
RISE n'a pas de carénage, ses très grandes pales sont à l'air libre, des airs d'hélice qui rappellent l'aviation d'un autre temps. Et c'est cette technologie qui permettra d'alléger les avions de demain et donc de consommer moins de carburant, explique Delphine Dijot.
On vise d'améliorer de l'ordre de 20% la consommation de carburant et donc les émissions de CO2 par rapport à la génération actuelle. Le moteur actuel avait déjà gagné 15%. Donc on vient faire un saut supplémentaire vers la décarbonation avec cette architecture.
Précision, tous les appareils ne seront pas équipés de ce moteur.
Donc c'est des courts et moyens courriers, donc il faut imaginer les avions qui vont faire un Paris-Toulouse, un Paris-Rome, qui correspondent au remplacement de l'A320 et du Boeing 737.
Les courts et moyens courriers représentent tout de même la grande majorité des vols, commercialisation prévue à l'horizon 2036.
Dans quelques secondes, il sera 11h50. On se retrouvera juste après une nouvelle pause dans ce journal pour évoquer l'actualité sportive et notamment les bateaux qui continuent d'arriver à l'issue de la Groupe Amareis. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Du 18 au 22 juin, c'est les jours complètement waouh dans vos magasins Auchan Auteuil et Auchan Café Riz. Avec votre carte de fidélité, profitez chaque jour de 5% de cagnottage supplémentaire sur un rayon différent ou sur nos produits Auchan. 5 jours, 5% de cagnottage en plus, waouh, ça vaut vraiment le coup. Détails de l'offre à retrouver sur les pages Facebook des magasins Auchan. Le bon, moins cher.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
La page sport dominée par la voile avec la suite de la New Caledonia Groupama Race et les bateaux continuent d'arriver petit à petit à la pointe Brunelet, Léana Colombo.
Et oui, nous vous l'annoncions ce matin, c'est l'équipage néo-zélandais du V5 qui franchit en première position la ligne d'arrivée de la New Caledonia Groupama Race. Mais attention, cela ne signifie pas que le bateau a remporté cette course, puisque le Romance a été dérouté plusieurs heures pour porter secours à l'équipage du Rush Hour qui avait, je vous le rappelle, chaviré dans la nuit de lundi à mardi. Ce matin, c'est le Calédonien Guilty, Speed Marine et Puro qui est arrivé en seconde position du classement provisoire en prenant une décision tactique payante, passer au large puis par la passe de Dumbéa et non comme tous les autres à l'intérieur du lagon. Le bateau calédonien est arrivé à 10h35 ce matin, soit en 4 jours et 35 minutes de course. Il s'agit d'un record de temps pour ce type de bateau, les Sydney 38, explique Alexandre Ruiz, skipper du Guilty Speed Marine et Puro.
Si on est là aujourd'hui à cette heure-ci, c'est que ça s'est plutôt bien passé. En la voile, on essaie toujours de prendre le chemin le plus court, mais là, comme on s'est dit la première nuit, on était sur la vitesse, on dit non, ça sert à rien d'aller vite, on va essayer d'aller juste. Et c'est vrai que cette nuit, on s'est dit on va essayer d'aller juste, même si on allonge la route, on va aller chercher le vent. Allonger la route en avançant, ça va plus vite que rester sur place. Donc on a fait, c'est pas grave, on va allonger les milles, mais au moins on va avancer, quoi. En passant, on me dit qu'on a battu le record, donc carrément, ça y est, moi, mon but de cette course, il est fait. J'étais parti pour le record, je voulais tomber les 4 jours, ça s'est pas fait, mais il y avait l'autre record derrière, donc voilà, ça c'est carrément, c'est la cerise sur le gâteau, ça c'est clair.
Tugdual Pierriou, directeur du CNC, vit pour la première fois la course en tant qu'organisateur et non skipper.
C'est la première fois que je l'avais vu à l'intérieur. D'habitude, je suis sur un bateau. Bah, j'avoue que c'est encore plus long et encore plus stressant. Je vois par exemple BCI Brer Fox qui était aussi très bien, qui a eu ses voiles s'est déchirées alors qu'il était deuxième. Énormément de rebondissements. BNC qui a fait une course magnifique et ça doit être tellement dur pour eux actuellement. Après, tout n'est pas fini non plus à cette heure-ci, mais ça doit être dur. Il faut des nerfs en acier pour continuer à lutter alors qu'après tant de batailles, ils sont englués. C'est très stressant à suivre de l'intérieur.
Devraient arriver dans l'après-midi les bateaux calédoniens Young Guns, Gann, Sainte-Marie et Pulpito MLS, tout comme l'Australien Romance.
Par le passé, il y a déjà eu des péripéties, mais de cette gravité, entre guillemets, c'est la première fois. Vu le nombre de bateaux, parce que là, cette année, on a battu le record avec 23 bateaux au départ, on se doutait qu'il allait y avoir quelques incidents, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. C'est une organisation qui est malgré tout bien rodée. On avait envisagé tous les scénarios. Et pour l'accident de Rush Hour, il s'est trouvé que tout s'est bien coordonné avec le COS, avec les forces armées. Donc non, c'est une grande satisfaction. De ce côté-là.
Voilà, vous avez pu entendre le gagnant, le skipper, l'équipage néo-zélandais du V5 qui a donc franchi en première position la ligne d'arrivée de la New Caledonia Groupama Race.
Voilà, rappelons que le classement final n'est pas encore déterminé puisque les Australiens de Romance devraient bénéficier d'un temps compensé après avoir porté assistance à Rush Hour après son chavirement. Parmi les 4 équipages calédoniens qui se disputent le podium, c'est donc Jilty qui est arrivé en seconde position. Le reste du sport est la suite des championnats de France de natation avec des Calédoniens encore engagés. Maxime Grousset a remporté la finale du 50 mètres nage libre en 21 secondes et 68 centièmes. Un petit centième devant Nikita Bèze en 21-68. Un nouveau titre de champion de France après ceux que Maxime Grousset a déjà glané sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre. Et puis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie adresse ses condoléances aux proches de Jackie Bégaud, décédé le 11 juin dernier des suites d'une maladie. Cette figure du sport calédonien s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Fidèle pendant toute sa vie à son club de l'Olympique de Nouméa, le tennisman a représenté la Calédonie lors des éditions des Jeux du Pacifique en 63, 66, 71 et 75. Il avait remporté 4 médailles d'or et une médaille d'argent. Multiple champion de Nouvelle-Calédonie, Jacques Bégaud était apprécié pour ses qualités de joueur et pour sa grande gentillesse reconnue par tous, peut-on lire dans ce communiqué du gouvernement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et on termine ce journal par notre question du jour. Des événements comme pour la Groupama Race sont-ils, selon vous, de nature à donner une image plus attractive de la Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier qui a fait l'unanimité parmi les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS. Ils pensent en effet que 85 ans après, il est toujours important de commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle.